Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Olivier Charlier.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous êtes à ce micro pour vous revêtir un petit peu une sorte de costume d'ambassadeur d'un festival assez mythique, en plus qui souffle ses 60 bougies cette année. Je crois que vous n'étiez pas là à la première édition. Hein.
Non, c'est vrai.
C'est le festival Pablo Casals de Prades qui se déroulera cette année du 26 juillet au 13 août.
Oui, tout à fait.
Une 60e édition sous-titrée Variation avec un S, c'est ça?
C'est ça, c'est un très joli mot, oui, c'est un mot qui peut en effet s'adapter parfaitement à la musique, puisque le thème et variation est une forme musicale qu'ont pratiqué tous les compositeurs, et finalement peut s'adapter aussi à beaucoup de choses dans la vie, vous ne croyez pas?
Il paraît, oui. Alors c'est vrai que ce festival, vous êtes un habitué à plusieurs particularités, notamment par exemple celui des lieux aussi déjà.
C'est vrai.
Magie à ce niveau-là.
Oui, je crois que la chose marquante, le point de départ de ce festival il y a 60 ans, c'était une personnalité, Pablo Casals, un grand violoncelliste, donc qui avait décidé de se retirer du monde d'une certaine manière, mais qui vivait à Prades et il ne voulait plus quitter cet endroit pour les questions politiques dramatiques de l'époque. Voilà. Et ses amis musiciens ont pensé que, bon, puisque Pablo Casals ne voulait plus quitter ces belles montagnes, voilà, ce serait finalement le monde musical qui viendrait jusqu'à lui. D'où les premières éditions de ce festival, d'abord dans l'église de Prades, et puis peu de temps après, donc dans l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, qui est un lieu absolument magique, qui à l'époque était un peu à la abandon. C'est vrai que le toit s'était écroulé et donc on connaît une photo mythique de Pablo Casals qui a joué dans les ruines entre guillemets de cette abbaye au tout début du festival. Et puis depuis, heureusement, le bâtiment a été rénové et donc maintenant dans cette abbaye Saint-Michel de Cuxa qui est juste à côté de la ville de Prades, donc se tient l'essentiel des concerts du festival.
Vous vous souvenez la première fois que vous avez mis les pieds dans ce festival?
Oui, je me souviens, c'était avec une étiquette de jeune violoniste encore frais et moulu du conservatoire, donc puisque j'étais venu en tant qu'auditeur écouter un de mes maîtres, Henrik Tjering, grand violoniste qui faisait partie de ses premières équipes de musiciens qui ont fait la réputation du festival Pablo Casals. Voilà, je devais avoir à peu près 18 ans et j'étais venu écouter ce grand violoniste qui était un de mes maîtres, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler avec lui dans le salon de Nadia Boulanger. Enfin, ça remontait comme ça aux racines, je dirais, de la formation, de ma formation de musicien.
Et la première fois que vous avez joué là-bas?
quelques années après, finalement, ce qui est assez captivant dans ce... Dans, je ne sais pas s'il faut parler d'un métier ou d'un sacerdoce quand on est musicien, c'est un petit peu entre les deux, sûrement. Et donc, j'ai eu la chance d'être environ 5 ans après, invité une première fois au festival, en tant que violoniste, bien sûr, cette fois-ci. Voilà, monter sur la scène. Grand souvenir, grand échange. Et puis, depuis, régulièrement, je foule les planches de cette scène.
Alors, vaste programmation cette année qui sera consultable aussi bien sur le site du festival www.prade-festival-casals.com et qu'on relayera également sur Cobuzz. Donc, si les gens veulent voir évidemment les détails de ces variations, quels sont les grands temps forts? Alors, c'est vrai qu'en termes de répertoire, c'est très très vaste. Hein, pour entendre aussi bien du Mozart ou du Johanna, pour prendre deux noms au hasard, en termes d'interprètes, à vous par exemple, il y a Sandrine Piau, Xavier de Maistre, enfin bon, il y en a beaucoup beaucoup de choses. Quels sont les principaux temps forts de... Il y a la musique française qui est notamment à l'honneur, je sais, avec Debussy pour
on célèbre voilà les 150 ans de la naissance de Debussy, et donc il était important de replacer aussi la musique de Debussy à l'intérieur d'autres compositeurs de son époque ou qui ont été ensuite influencés par ce pilier, je dirais, de la musique française. Ce festival arrive finalement, toujours en gardant ce qui est très très important, une considération principale pour les racines. Et quand un festival comme ça a la chance de pouvoir puiser dans 60 ans de mémoire, il y a une sorte de saut, je dirais, dans la programmation, de par la personnalité de Casals, dont le nom est souvent associé à Jean-Sébastien Bach, bien sûr, parce qu'il a été le premier à faire renaître, je dirais, les suites de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle seul, qu'il jouait tous les matins. Il y a 6 suites pour violoncelle et tous les matins, il jouait une suite. C'était le début de sa journée de musicien. Et puis le dimanche, il se reposait et la semaine suivante, il recommençait. Donc Jean-Sébastien Bach, mais aussi un grand rassembleur, un grand découvreur de la musique de chambre sous toutes ses formes. Et le festival essaye régulièrement de reconstituer aussi, c'est un peu un travail de mémoire, les programmes qui ont été donnés, comme ça, les grands programmes qui ont marqué cette histoire. Alors, on joue bien sûr les grandes œuvres de la musique de chambre que vous citiez tout à l'heure, en passant de Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, bien sûr. La discipline du quatuor à cordes est très représentée aussi comme étant un des piliers de la musique de chambre, mais aussi des œuvres que l'on a moins souvent l'occasion d'entendre parce que ça demande des effectifs un petit peu inhabituels. Je pense à l'octuor de Schubert, je pense au septuor de Beethoven, enfin des œuvres monumentales, je dirais, de la musique de chambre. Et ce lieu, cette tradition permet comme ça de réunir parce qu'un groupe de musiciens venant de tous les horizons se retrouve sur place pendant 2 semaines à vivre vraiment dans ce lieu magique, à répéter, préparer les concerts. Il y a aussi une académie, c'est-à-dire les étudiants qui sont là, et donc la possibilité aussi de partager avec les jeunes générations, les étudiants qui ont des cours d'instruments, des cours de musique de chambre, qui viennent assister au concert, une sorte de bain musical, je dirais.
Oui, il y a des masterclass, il y a les concerts, il y a vraiment toute la palette.
C'est tout un éventail, c'est un éventail de musique. Toute la région vit, je dirais, sous la bannière du festival. De nombreux concerts aussi maintenant décentralisés dans des petites églises ou dans des lieux absolument magiques comme ça dans la région, jusque dans la montagne. Et je crois que cette atmosphère qui a une répercussion, un rayonnement extraordinaire dans la région, mais qui attire aussi un public du monde entier dans une région très belle et avec cette réputation d'un des festivals les plus ancrés, les plus anciens, les plus mythiques pour la musique de chambre. Alors en effet, des thèmes cette année, Debussy est incontestablement mis à l'honneur à Prades comme dans beaucoup d'autres endroits. Une partie aussi de création contemporaine.
Oui, musique contemporaine.
Tout à fait.
Christophe en résidence.
Voilà, Christophe Maracca qui est en résidence et qui va donc présenter une œuvre pour la première fois, et aussi des conférences, des concerts d'étudiants. Enfin, c'est une sorte de d'effervescence autour de la musique, et je pense que chaque musicien qui a vécu cette expérience en ressort sûrement très fatigué, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, mais nourri, je dirais, par les rencontres avec les partitions, par les rencontres avec les lieux, les rencontres avec le public.
Cette académie est importante pour vous, même en tant qu'enseignant, vous participez à cette... C'est quelque chose d'important, la transmission, aussi bien de l'histoire du festival, comme vous venez de le dire, mais aussi même par rapport à ceux qui feront le festival peut-être de demain.
Bien sûr, il y a un lien ininterrompu entre, je parlais tout à l'heure de mon premier souvenir d'être venu écouter Henrik Tschering qui était sur scène et j'étais dans le public, et puis petit à petit les choses comme ça évoluent, et sûrement dans les jeunes étudiants qui viennent je dirais se frotter à la musique de chambre et à la pratique instrumentale de haut niveau. Il y a sûrement dans les étudiants les futurs acteurs du festival dans les siècles qui continueront, j'espère, à faire résonner ces belles voûtes.
Donc, avantage du festival d'avoir 60 ans, c'est d'avoir aussi construit un public de fidèles, mais aussi donc d'avoir un nouveau fidèle. Dans ces périodes où, en ce moment, c'est vrai que surtout l'été, les festivals un peu fleurissent comme des petits pains. C'est la crise, on pourrait dire, du disque, mais les festivals, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Comment, justement, un festival comme le festival Pablo Casals de Prades essaye, justement, de maintenir, j'allais dire, son aura liée à sa longévité, mais aussi de se renouveler en permanence? C'est quelque chose de difficile, ça s'entretient?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on voit de très nombreux festivals, en effet, se créer et puis disparaître, parce que ça demande une énergie remarquable. Et puis là, la rencontre, en effet, entre un lieu, je pense que c'est très important, et une programmation. Et là, c'est vrai, Michel Letiec, qui en est donc le directeur artistique, voilà, réfléchir, cherche, expérimente beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'associations de musiciens aussi, parce qu'il y a une sorte d'alchimie à réussir dans les groupes de musiciens qui vont devoir vivre ensemble, travailler ensemble, mais aussi recréer une interprétation, trouver une une couleur, une envie, quelque chose, un saut, je dirais, de festival, le plaisir de se retrouver ensemble et de d'évoluer autour de ce concept de festival. Donc alors pourquoi le public est fidèle, pourquoi le public va suivre comme ça un lieu plus qu'un autre, c'est une alchimie difficile à décomposer et je crois que ce sont tous ces facteurs, le lieu, la mémoire, le sentiment vraiment comme dans d'autres festivals, de suivre comme ça une famille de musiciens, de suivre une logique. Il y a en même temps le côté plaisir d'entendre de grandes œuvres, mais aussi le côté découverte, d'être pris par la main, par une programmation, et de ressortir de chaque festival ou de chaque concert avec le sentiment, voilà, qu'on a fait un chemin dans l'émotion, qu'on a fait un chemin aussi dans la découverte, un apport comme ça que cette programmation a pu vous donner, vous apporter.
Pour le musicien, pour le soliste que vous êtes, que représente ce genre de manifestation dans ces périodes? Effectivement, on sait que l'industrie du disque c'est un peu chahuté, beaucoup même. Il y a le spectacle vivant, les concerts, etc. Mais ce genre effectivement de manifestation sur plus de 15 jours, où effectivement on est dans une sorte de bulle d'air, comme vous l'avez bien décrit, qui voit large en termes de répertoire, en termes de type de profil de musicien, de public, etc. Une sorte de petit paradis. Comment vous le vivez, ce genre d'expérience, ce genre de manifestation?
Je crois que je ressens à chaque fois, à la fin de chaque festival, cette expérience va me grandir musicalement. J'ai besoin de me mettre en danger en tant qu'interprète autour d'œuvres nouvelles, dans des challenges, aussi d'une rencontre, de retrouvailles avec des musiciens. Et c'est un... Comment exprimer ça? La musique classique tourne beaucoup en regardant le passé, puisque nous jouons principalement des œuvres donc des siècles précédents, 18e, 19e siècle, 20e siècle. Bon, la création est une partie importante sur un plan de l'investissement de temps, de la curiosité, de la nécessité d'aller plus loin et de garder un côté vivant à la musique. Mais si on regarde concrètement les programmations, c'est vrai que nous jouons des compositeurs du passé. Et le risque est de se scléroser un peu dans une sorte d'académisme ou de tradition qui serait finalement un peu routinière. Et un lieu comme le Festival de Prades permet, parce que le public le demande, parce que l'histoire du festival l'a toujours réclamé, donc ce lieu et la forme que prennent les rencontres entre musiciens permet justement de bousculer cette habitude ou ce traditionnalisme. Voilà, j'aime bien la tradition, mais le traditionnalisme est quelque chose qu'il ne faut pas laisser s'installer dans notre vie de musicien. Alors là, parce que en effet les musiciens viennent de nombreux horizons, c'est très de tous les pays, de nombreuses écoles et sensibilités comme ça vont être réunies par Michel Letiec autour de sa connaissance, de sa sensibilité, de son invention de programmateur. On n'est pas dans un endroit confortable où on jouerait, je dirais, comme d'habitude. Il y a quelque chose, il y a une effervescence, il y a un besoin de se dépasser, il y a une émulation, je dirais, entre musiciens, tout en gardant un côté extrêmement convivial, entre autres grâce à la présence des étudiants aussi, parce qu'il y a en même temps la nécessité d'innover et puis la volonté aussi de démontrer. On enseigne et on apprend aux jeunes les règles de la musique et de l'instrument, mais il faut leur apprendre aussi la curiosité, il faut leur montrer par notre démarche qu'elle peut être une vie de musicien et qu'elle peut être la marge de manœuvre, je dirais, entre la vérité et l'innovation. Et je crois que tous ces éléments mis bout à bout dans un chaudron comme ça, qui a déjà, je dirais, son atmosphère, il y a quelque chose que l'on ressent qui est ancré, qui a imprégné les pierres de ces bâtiments. On se sent en même temps un petit peu en danger, et je trouve que c'est un sentiment que tout artiste doit pouvoir accepter, il ne faut pas le rejeter, et en même temps porté par une mémoire ou conforté, tout ça est un peu ésotérique, mais conforté par toutes les belles choses qui se sont déjà passées à Prades depuis 60 ans maintenant.
Vous allez jouer quoi, vous, cette année ?
Alors, des programmes depuis, je parlais septuor de Beethoven, Debussy, bien sûr, sonate pour violon. Je serai aussi avec des romances de Clara Schumann qui me viennent à l'esprit aussi. Donc, des œuvres moins jouées. Et puis Vivaldi, et puis Bach, et puis Dvorak. Voilà, la liste est longue.
Et donc l'avantage aussi effectivement pour les musiciens, c'est quand on se retrouve dans un festival comme ça, c'est de pouvoir écouter les autres aussi. C'est aussi intéressant de venir à ce moment-là, de switcher en mélomane.
Oui, c'est passionnant. On n'a malheureusement pas le temps de tout écouter, ouais. parce qu'il y a de la musique tout le temps, et donc quand on n'est pas sur scène, on est en train de préparer le concert suivant. Mais c'est vrai qu'au cours d'une même soirée, c'est aussi sans doute une des choses que le public adore, on va pouvoir entendre un quatuor, et puis après un piano qui va jouer tout seul, et puis ensuite on entendra un trio, et puis ça finira par des instruments à vent. Il y a une grande diversité dans chacun des concerts. Le fait, je dirais, d'avoir un réservoir, entre guillemets, de musiciens sous la main permet à la programmation comme ça de ne pas être tributaire de l'effectif de musiciens sur scène. On peut très bien comme ça utiliser et mélanger, je dirais, les groupes, les formations. La seule raison de la programmation viendra d'une idée musicale, d'un fil conducteur, de la volonté de mettre des œuvres en complément ou en opposition. Donc beaucoup de diversité, et ça nous permet en effet de nous écouter les uns les autres. Voilà, de ressentir des chocs, des surprises et des émerveillements qui nous apportent beaucoup.
Et les confrères en particulier que vous avez hâte d'entendre cette année, ou confrères, enfin violonistes ou autres d'ailleurs, des chanteurs, des ensembles, il y a quelques
Je les aime tous, vous savez, voilà. Donc,
jaloux.
Non, voilà. Et puis, oui, non, il y a des moments, des œuvres que je vais découvrir. Il y a sûrement, et je suis ouvert à beaucoup, j'espère, de découvertes.
Quels sont vos projets plus personnels dans les mois qui viennent suite à ce festival?
Le programme de l'été est toujours assez chargé, en effet, avec des concerts aussi avec l'Orchestre de Cannes, avec l'Orchestre de Nice, avec un récital aussi autour de Jean-Sébastien Bach, qui est des fils conducteurs de l'été, d'une manière globale. Souvent, c'est vrai, des festivals, parce que c'est là aussi une rencontre entre un instrument seul et un lieu, donc une église ou un lieu de festival. Ensuite, donc à la rentrée, je repars sur la route pour des concerts avec le BBC Philharmonique, tournée en Corée, enfin d'autres voyages un peu plus tard au Japon aussi. Nous reprendrons le cours normal, je dirais, d'un parcours beaucoup plus morcelé. Notre vie est souvent faite comme ça, un voyage, un concert et le retour. Voilà, et la période du festival, et pour en être un pilier, permet de poser ses valises comme ça pendant 2 semaines et de vivre un vrai parcours, je dirais, avec la musique et avec le public.
Comment justement vous construisez la feuille de route de votre parcours personnel en fonction des mois après mois, en fonction des répertoires, des œuvres que vous voulez voir pour la visiter pour la première fois ou revisiter, revoir comment on avance comme ça? Est-ce que ça se fait, j'imagine, parfois avec le hasard de certaines rencontres et les choses qu'on a envie, un mélange des deux? Comment
bien
ça...
sûr, c'est un mélange des deux, et c'est ce qu'il y a d'absolument insaisissable dans ce métier. En même temps, on puise, je dirais, dans sa valise de répertoire, dans les œuvres qu'on a plaisir à jouer, à rejouer, et donc qu'on va vous demander plus souvent. Et puis il y a les initiatives, tiens, j'ai envie d'expérimenter autre chose, des demandes précises aussi parfois d'orchestre pour une œuvre, et j'ai découvert de nombreuses œuvres comme ça par la suggestion que m'en faisait un organisateur qui avait envie d'entendre une œuvre et qui a pu comme ça ouvrir mes horizons de musicien. C'est imprévu, un mélange entre ce que vous allez réussir à initier, à proposer, et puis le retour.
Bien, on pourra déjà goûter une petite partie de tous ces parfums. Donc entre le 26 juillet et le 13 août à Prades, où donc on pourra vous entendre avec plein d'autres musiciens. Donc pour ce festival, Pablo Casals. Merci Olivier Charlier.
Merci à vous. Thank you.
arrobase.com. Rencontre par Marc Zisman.